Ça va être notre prochain régime, ça, la soupe populaire. Maintenant qu'on va être sinistrés.
Les habitants de Fessenheim très amers alors que le premier réacteur de la centrale nucléaire alsacienne a été mis à l'arrêt hier soir.
La journée commence au salon de l'agriculture, donc où Europe 1 a installé son studio, je vous le disais depuis 6 heures ce matin. Les éleveurs et les vaches sont très bien réveillés et on va maintenant procéder bien sûr à la traite.
On va traire environ 600 animaux, matin, soir, nuit. On va faire à peu près 45 tonnes de lait pendant tout le salon.
Le salon où on attend aussi le président de la République dans une heure. Il a quitté hier ses homologues européens à Bruxelles sans trouver d'accord sur le budget de l'Union. Nous irons en coulisses des négociations.
Et puis à la fin de ce journal, direction un autre salon, le salon des jeux de société. Et oui, ça existe, c'est un petit peu plus silencieux en tout cas que celui de l'agriculture, vous vous en rendez compte puisque vous entendez toute l'ambiance sonore qui est autour de moi. Et c'est tout ce week-end à Cannes.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'était à 2h du matin, cette nuit, un réacteur nucléaire débranché du réseau électrique français, l'unité numéro 1 de la centrale de Fessenheim. La ville alsacienne, dont l'économie est largement soutenue par l'atome depuis les années 70, c'est plus qu'une page qui se tourne. Alors hier soir, une centaine d'habitants se sont rassemblés avec une pointe d'amertume. Reportage d'Arthur Enbaché.
Nuit noire à Fessenheim, un rassemblement, deux symboles de l'après centrale. Lampadaires éteints.
Qui veut une soupe ?
Et soupe populaire.
Donne-moi de la soupe, je vais la donner.
Ferme. Ça va être notre prochain régime, ça, la soupe populaire. Maintenant qu'on va être sinistrés. C'est malheureux, quoi.
Triste et en colère, Annie et Nathalie, mère et fille.
Je suis pas contente du tout parce qu'on ferme cette centrale et on va chercher maintenant de l'électricité en Allemagne alors que là-bas, ils la produisent avec du charbon. Il faut arrêter de se moquer du monde, quoi. Je comprends pas. Donc ma fille va partir, mes trois petits-enfants vont partir, mon gendre avec, alors qu'on a l'habitude de vivre tous un à côté de l'autre. C'est très très dur.
Comme dit, on va partir, donc on laisse notre famille, mes parents, ma soeur. Voilà, donc c'est sûr que voilà, ça va pas être facile, hein. Mais bon, il faut faire avec. De toute façon, c'est sûr que voilà, une autre centrale en Alsace, il n'y en a pas, hein. Donc je serais obligée de quitter la région.
Vous travaillez à la centrale ?
Mon mari. Donc c'est sûr que ce soir il est rentré, c'était pas facile pour lui quoi.
Il y a encore aujourd'hui ici 850 salariés EDF, 60 suffiront pour le démantèlement de la centrale. Fessenheim, Arthur Enbaché, Europe.
Et le deuxième réacteur de Fessenheim sera arrêté fin juin avant un démantèlement du site qui devrait prendre au moins 25 ans.
Et Europe 1, je vous le rappelle, et toute la matinée, que dis-je, toute la semaine, pendant toute la durée, au salon de l'agriculture. Le studio Europe 1 vous attend donc au cœur du Haut-Lin, au stand de la filière des produits laitiers. Pour ce qui est des visiteurs, je vous rappelle que les portes ouvrent à 9h ce matin. Et pour les bêtes, la journée est déjà très bien entamée. Je voudrais qu'on rejoigne tout de suite Jean-Jacques Herry, le reporter baladeur d'Europe 1, qui se trouve pas très loin d'ici, du côté de la grande salle de traite du salon. Jean-Jacques, je pense que l'heure est venue, n'est-ce pas ?
Oui, absolument. Les vaches sont en file indienne, là, juste devant moi. Elles vont donner leur lait. Elles attendent assez patiemment, il faut dire, avant de monter dans les petits box du centre de traite. Tout ça au beau milieu du pavillon 1, pas très loin effectivement de là où vous êtes. Et j'ai rencontré Stéphane, venu avec sa vache Primolstein. Il est venu depuis Gurunuel. Ça se trouve près de Guingamp, en Bretagne.
Là, on branche les traillons. Et voilà, là, la traite est partie. Ici, souvent, on doit attendre pour traire parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors chez nous, on est à traire, c'est les vaches qui attendent.
Voilà, ce bruit un peu de succion que vous entendez, c'est celui du traillon accroché au pied des vaches. Le lait, lui, il part dans les tuyaux avant de rejoindre un tank à lait. C'est une sorte de grosse citerne dans les entrailles de la salle de traite. Un spectacle, évidemment, pour beaucoup de visiteurs, ce qui ne cesse toujours d'étonner Stéphane.
Disons qu'on a des fois presque l'impression d'être dans un zoo, et nous, on fait partie du zoo. Ça devient ça un peu l'agriculture. On sent qu'il y a une déconnexion du monde agricole et du consommateur, des gens de la ville.
Et puis dans un coin, on peut aussi croiser Olivier Bruchon. Il est directeur technique au sein de l'entreprise de Laval. Et c'est lui le grand responsable de toute cette installation de la salle de traite.
On va traire environ 600 animaux. Matin, soir, nuit, on va faire à peu près 45 tonnes de lait pendant tout le salon.
Voilà, et sachez pour finir que la laiterie, elle passe tous les deux jours récupérer le précieux liquide. Et les éleveurs, bien sûr, sont indemnisés pour tout le lait qu'ils fournissent pendant le salon.
Jean-Jacques Herry, vous êtes prévenu, vous ne revenez pas au studio Europe 1 sans m'amener un demi-litre de lait frais. Je compte sur vous. Et on attend dans une heure exactement, à 8 heures normalement, l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le salon.
Il revient de Bruxelles où les dirigeants de l'Union européenne ont débattu de leur budget à 27 pays sans le Royaume-Uni et donc sans sa contribution financière. Et devinez quoi ? Il n'y a pas eu d'accord trouvé. Il faudra donc se revoir. Isabelle Horry.
Les Britanniques ne sont plus là, mais leurs oreilles ont dû siffler ces deux derniers jours. D'abord parce que si les 27 ont tant de mal à s'entendre, c'est parce que le départ de Londres laisse en héritage un trou de plus de 10 milliards d'euros par an dans le budget. Ça a tendu une négociation déjà compliquée par nature. Ensuite, les Britanniques avaient un rabais sur leur contribution, le fameux chèque « I want my money back » de Margaret Thatcher. Au fil des années, 5 autres pays, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, l'Autriche et les Pays-Bas, en avait obtenu un aussi. Aujourd'hui, ils refusent de le lâcher et ils n'ont pas bougé d'un millimètre pendant le sommet. Enfin, les tactiques britanniques ont inspiré le néerlandais Mark Rutte. L'ex-premier ministre David Cameron était toujours très dur, peu solidaire à Bruxelles. Rutte a refusé de négocier, il a joué avec le feu, ça a créé beaucoup de tensions, s'inquiète cette fois un diplomate. Bref, les Anglais étaient depuis des années ceux qui endossaient le rôle des mauvais coucheurs, mais d'autres pays européens semblent prêts à prendre leur place. Un fait qui inquiète un peu dans la capitale européenne. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Un nombre important de nouveaux malades du coronavirus en Corée du Sud. 142 cas annoncés hier, soit un total de 346 dans le pays. Par ailleurs, en Italie, un homme de 78 ans a succombé à ce Covid-19 après 10 jours d'hospitalisation. C'est le premier Européen à mourir du coronavirus.
La suite de ce journal, dans un court instant, on va parler de l'intelligence artificielle utile, plus qu'utile désormais pour la recherche médicale. Vous verrez comment on réussit à tuer des bactéries grâce à des méthodes très très innovantes.
7h06 sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1, le 6-9.
Vos informations continuent avec François Geffrier et Bernard Poirette.
François, de toute évidence, ce n'est pas qu'un gadget de développeur informatique. Je parle de l'intelligence artificielle dont on entend de plus en plus parler. Eh bien, cette intelligence a trouvé une application dans la recherche médicale.
Et ça se passe du côté, forcément, des plus grandes universités américaines, Harvard et le MIT. Des chercheurs ont découvert une nouvelle molécule capable de tuer des bactéries qui, normalement, résistaient aux antibiotiques traditionnels. Les explications avec Nicolas Feldman.
Allicine, c'est le nom de cette nouvelle super molécule, un hommage au puissant ordinateur HAL dans le film L'Odyssée de l'espace. Alors pour en arriver là, les chercheurs se sont donc passés des procédés de recherche traditionnels lourds et coûteux pour les remplacer par l'intelligence artificielle. Grâce à elle, des centaines de millions de composants chimiques ont pu être scannés et au milieu de cette bibliothèque informatique, il n'a fallu que quelques heures pour identifier les molécules capables de tuer des bactéries jusqu'à n'en retenir qu'une. Et ses premiers résultats sont encourageants. Testée sur des souris, cette super molécule a mis à peine 24 heures pour tuer une bactérie jusqu'ici indestructible. Elle a aussi permis de venir à bout de plusieurs autres bactéries résistantes aux antibiotiques connues. Une promesse pour venir renforcer un arsenal antibiotique plus que nécessaire. D'après l'OCDE, les bactéries résistantes pourraient tuer près de 2,5 millions de personnes d'ici 30 ans.
Les élections aux États-Unis seraient-elles de nouveau perturbées par Moscou ? Le candidat à l'investiture démocrate, Bernie Sanders, dénonce une ingérence de la part de la Russie. Elle chercherait à le favoriser, lui. Cela fait suite à des informations du journal Le Washington Post. « Mon message à Poutine est clair », déclare Bernie Sanders. « Restez à l'écart des élections américaines et lorsque je serai président, je m'en assurerai ».
Et comme je vous le disais en titre, nous allons passer d'un salon à l'autre dans ce journal. Je suis, moi, au Salon de l'agriculture à Paris. Mais nous allons maintenant partir pour Cannes, au Salon international du jeu de société.
Oui, Cannes serait-elle la capitale du jeu ? Jusqu'à ce dimanche, le Palais des Festivals accueille les créateurs et les joueurs du monde entier. Alors notre correspondant sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel, qui est finalement un grand enfant, s'est laissé tenter par quelques nouveaux concepts.
New York, 1931. Al Capone fait appel à vous depuis Chicago.
Et la tendance actuelle est au jeu coopératif. Cyril Desmax s'est inspiré des escape rooms pour créer Unlock, As d'Or 2017 du festival. L'aventure se vit autour d'une table. Le jeu s'est déjà vendu à plus d'1,2 million exemplaires.
Alors, le jeu coopératif, c'est une idée qui est née récemment où on va jouer tous ensemble contre le jeu, en fait. Et là, dans Unlock, c'est typiquement le cas. On a 60 minutes pour sortir, c'est-à-dire pour arriver à la dernière carte. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, si ce n'est l'équipe. Et ça, c'est un truc qui fait plaisir aux joueurs parce que leur adversaire, c'est pas l'autre, c'est le jeu.
S'amuser en famille ou entre amis, c'est le principe du jeu de société qui, même à l'heure du numérique, attire toujours autant. Antonin Bocara est l'auteur d'un des jeux de l'année, Fiesta de los Muertos, un jeu d'ambiance et coopératif où il faut décrire un illustre personnage défunt.
C'est un jeu en fait d'association de mots. C'est-à-dire que vous allez tous recevoir un personnage. Par exemple, vous recevez Einstein ou la mère de Bambi. Ben, je vais devoir écrire un mot qui me fait penser à la mère de Bambi. Donc par exemple, forêt. Tu le fais passer à ton voisin. Moi par exemple, je vois forêt, je vais peut-être écrire arbre. À la fin de la partie, on prend les personnages de tout le monde, on les affiche, on voit les derniers mots et il faut retrouver quel mot correspond à quel personnage.
Chaque année, ce sont plus de 1000 nouveaux jeux qui arrivent sur le marché. Cannes, Frédéric Michel, Europe.
À 7h11, on s'intéresse au sport maintenant avec François Geffrier.
Ah, les sports, ce sont d'autres jeux, n'est-ce pas François? Commençons par le football et le goût de la victoire aussi pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Ça leur avait manqué depuis un petit moment.
Oui, victoire 2-0 hier soir en déplacement à Metz. De bon augure alors que Lyon reçoit la Juventus Turin mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. C'est ce que retient le défenseur Léo Dubois de retour dans l'équipe.
C'est une satisfaction. Maintenant, il nous reste... Il faut passer à autre chose parce que ça, les échéances arrivent vite. Donc il nous reste quelques jours pour se préparer et préparer le match de la Juve. On ne craint pas grand-chose. On sait l'équipe qu'il va y avoir en face de nous. On sait la qualité qu'il y a. On sait l'expérience aussi qu'ils ont en Ligue des Champions. Voilà, c'est à nous de nous préparer mentalement, physiquement pour essayer de faire le meilleur match possible. J'espère qu'on sera la surprise après ce tour-là de Ligue des Champions.
Léo Dubois avec Patrick Muller, match nul hier de partout entre Nice et Brest. Et puis je sais que c'est votre péché mignon Bernard, la Ligue 2.
C'est vrai.
Hier soir, 26e journée, 1-0 pour Niort face à Valenciennes, 1 partout entre Guingamp et Sochaux, 2-1 pour Chambly contre Nancy, 1-0 pour Châteauroux en déplacement à Grenoble. L'AC Ajaccio l'emporte 2-0 face au Mans, le Havre perd à domicile 2-1 contre Orléans et puis Rodez s'incline sur son terrain 1-0 face à Lorient.
À suivre aujourd'hui en Ligue 1, Marseille-Nantes à 17h30. C'est un match assez important pour l'OM puisque c'est sa 2500e rencontre consécutive en Ligue 1 dans l'élite du championnat français. Et puis un peu plus tard, Lille-Toulouse et Dijon-Monaco, entre autres, c'est à 20h.
Le rugby, Pays de Galles-France au tournoi Destination, c'est à Cardiff à 17h45, le Millennium Stadium de Cardiff. Et puis demain, nous avons cet invité spécial sur Europe 1, Mourad Boudjelal, face aux auditeurs. L'ancien président du rugby club toulousain sera l'invité de Lionel Rosso, l'occasion pour lui de revenir notamment sur l'affaire Gaillaguet dans le patinage artistique et le témoignage de Sarah Abitbol. Mourad Boudjelal a un avis bien tranché sur cette affaire.
J'étais scandalisé par le dossier du patinage artistique. Vous êtes président d'une fédération, vous êtes responsable, même si vous ne le saviez pas, vous êtes responsable de ne pas le savoir. J'ai trouvé ce mec d'une indécence incroyable. Montrer sa gueule à la télé, car quand pendant 20 ans, on avait un prédateur sexuel dans sa fédération et qu'on l'a laissé faire, soit parce qu'on l'a couvert, soit parce qu'on ne le savait pas, on ne monte pas sa gueule à la télé, on s'excuse et on disparaît. Moi, j'ai trouvé le témoignage de Abitbol très émouvant.
Mourad Boudjelal, qu'on retrouve donc demain soir à 20h sur Europe 1, puisque j'ai encore quelques secondes. Bernard, je vais vous donner ce résultat de basket, la qualification pour l'Euro 2021. Première journée hier, la France a perdu 83-69 face à l'Allemagne.
Eh bien, écoutez, ça me semble très complet, ce journal de 7h, François Geffrier. Ferez-vous aussi bien à 8h? Je n'en doute pas. Écoutez, je suis en tout cas consterné parce que Jean-Jacques Herry est revenu de son enquête rapide pour savoir si toutes ces bêtes du Salon de l'Agriculture partent à l'abattoir après le Salon. Bien évidemment, Martine, je réponds à Martine, c'est totalement faux. Tous ces animaux magnifiques, notamment les vaches laitières, mais pas que, vont rentrer dans leur exploitation et poursuivre leur vie là où elles sont. Donc, pas de carnage après le Salon de l'Agriculture. C'est une excellente nouvelle.